Mes chers frères et mes chères sœurs dans le Christ, que l'amour du cœur du Père, en le Fils, en les feux de l'Esprit-Saint, feu d'amour, soit toujours avec vous. Mes chers amis, c'est avec une grande joie que j'ai accepté l'invitation de l'équipe de base de venir partager avec vous, en toute simplicité, une expérience de vie. De la 10e à la 28e année d'ordination sacerdotale, j'ai été hanté par deux questions principales qui m'ont poursuivi. La première, qu'est-ce qui manque à notre Église pour ne pas avoir dans le monde d'aujourd'hui plus d'impact, de leadership, de rentabilité spirituelle? Qu'est-ce qui manque à notre Église pour que nous soyons obligés inlassablement de faire des efforts immenses pour obtenir trop souvent des résultats minimes? La deuxième question. Il ne se peut pas, Seigneur, que tu veuilles nous mettre en route pour le salut, venir nous sauver d'une façon aussi compliquée que trop souvent dans notre catéchèse et dans notre enseignement, on semble nous l'indiquer. Tu as sûrement imaginé, toi qui es si bon, une manière de venir nous sauver à la portée de tous les humains, instruits ou non, pauvres ou riches, en santé ou pas, de quelque race ou de quelque continent qu'ils soient. Évidemment, dans ma fierté de prêtre, j'ai cherché, comme tous les évêques et tous les prêtres, à trouver ma réponse à mes questions. Et pendant des années, j'ai imaginé de réviser souvent mes pastorales, mes façons de procéder, mes priorités, les structures, les méthodes, pour arriver toujours, après quelque temps, après la flambée initiale, à me reposer les mêmes questions. Et c'est un matin de 1974 que, pendant l'oraison, lançant avec ferveur ces deux questions au Seigneur, je l'entends dans mon cœur me dire, « Et si on me consultait, moi, peut-être que j'aurais quelque chose à dire. » Et c'est à ce moment que j'ai décidé de jouer le tout pour le tout. J'ai dit à bien y penser, c'est le Seigneur qui est notre sauveur, c'est le chef de notre Église, c'est vrai. Il doit avoir la réponse à ces deux questions. Et j'ai annoncé à l'épiscopat que je démissionnais comme secrétaire général et je me suis mis en disponibilité, et là je vous fais grâce du merveilleux scénario que le Seigneur m'avait préparé. Tout est tombé en place en quelques jours et je me suis retrouvé, après discernement, avec une petite équipe que le Seigneur avait appelée, trois autres prêtres et une dame laïque, mère de famille. Les fondations Pax Vobis, que la paix soit avec vous et que ton règne vienne, ont commencé ce jour-là. Et je me souviens fort bien d'avoir dit à mes collègues, mes compagnons de route, pendant 2 ans, pas de réunion, pas d'activité, pas de paperasse ni de dossier, on va aller s'asseoir devant le Seigneur au Saint-Sacrement et on va lui demander de nous donner sa réponse à lui. Vous pouvez vous imaginer que le passage d'une vie hyperactive avec des agendas remplis jusque dans les marges et au haut de la page, au bas de la page, de réunions, d'entrevues, à une vie d'adoration, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, à l'écoute du Seigneur, il y avait là tout un changement. Mais le même Seigneur nous a appris à nous asseoir en sa présence, à nous taire et à réaliser la puissance de son silence actif. Et c'est comme ça que, tranquillement, il nous a donné les deux réponses escomptées. Non seulement il a répondu à nos deux premières questions, mais il nous a demandé et guidé dans une expérimentation de ce qu'il venait de nous enseigner. Il nous a dit, vous ne pouvez pas commencer à proclamer ce vin nouveau que je vous donne si vous n'avez pas d'abord appris à le déguster, à l'authentiquer, à le conserver, à le goûter, pour aller après ça le proclamer et le distribuer. Il nous a gardés pendant 9 ans et demi à son école. Et il vous intéressera de savoir, sans doute, qu'il a choisi pour renouveler les 4 prêtres diplômés en toutes sortes de sciences ecclésiastiques et religieuses et spirituelles, la dame laïque, la seule qui n'avait pas fait d'études de théologie ou de sciences religieuses, il s'est servi d'elle comme notre maîtresse des novices. Mes chers amis, à l'heure où en Belgique, vous vous apprêtez à vivre cette nouvelle évangélisation, je ne pouvais pas résister à l'appel de venir partager avec vous, aujourd'hui et vendredi, les éléments de base de la réponse reçue du Seigneur, confirmée et vécue dans notre quotidien depuis lors, sur ces 2 points. Et ces 2 enseignements seront les 2 volets d'un même diptyque. Nous verrons ce matin ce que le Seigneur considère comme le point important de la mise en marche du salut en chacun de nous. Et vendredi, nous verrons ce qu'il attend et offre à son Église d'aujourd'hui. Je vous en préviens, mes chers frères et sœurs, plusieurs vont être désarçonnés, déroutés, désarmés par la simplicité des réponses du Seigneur. Et je n'ai jamais tant réalisé dans ma vie que, effectivement, le message de Jésus est un message simple, mais exigeant. Et inconsciemment, nous en avons fait quelque chose de compliqué et de dilué. Accueillons ce que le Seigneur nous adresse comme à de ses petits-enfants et laissons ce vin nouveau agir en notre âme, notre cœur et notre esprit. Et si vous me permettez une parenthèse, à ce moment-ci, j'aimerais vous faire faire un acte de foi qui nous a été enseigné par le Seigneur. Je veux saluer l'auditoire visible que vous constituez, mais je veux en même temps saluer l'auditoire invisible que le Seigneur est prêt à constituer sur le champ, à la condition que chacun d'entre vous ait assez de foi pour porter dans sa présence ici tous ceux et celles qu'il désire voir rejoindre par la parole qui sera proclamée. Le Seigneur nous a dit qu'à cet instant de l'Église, pour chaque auditoire visible, il offre à tous les participants et aux prédicateurs un auditoire invisible multiplié par 100 et par 1000. Et c'est à chacun, par procuration, de demander au Seigneur de représenter ici, à la session, tous ceux et celles qu'ils veulent, et accepter tous ceux et celles que le Seigneur va greffer à sa foi, à son écoute, à son espérance. Et je vous prophétise, mes chers amis, qu'un jour vous saurez qu'à l'heure et au jour même où vous avez ouvert votre cœur à la parole du Seigneur, parce que vous avez cru, parce que vous avez fait cette démarche dans l'amour, il l'a mis en terre, partout dans le monde et dans le cœur de ceux que vous avez représentés. Avant de commencer sur le premier point, je voudrais lire avec vous ce passage du Cantique des Cantiques où la bien-aimée dit ceci. Sur mon lit, toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et je parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville, et je leur ai demandé, « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai jamais. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, je vais procéder par quatre affirmations, regroupant un certain nombre d'idées sur cette marche que Dieu nous offre comme seul sauveur de nos âmes. La première affirmation, c'est que chaque être de la terre est marqué du sceau d'un besoin absolu d'être aimé et d'aimer. C'est là une constante que l'on retrouve non seulement chez les êtres raisonnables comme les humains, mais chez les êtres non raisonnables comme les animaux, les végétaux. Et on sait fort bien que dans la mesure où même les plantes se sentent protégées, se sentent soignées, aimées, les animaux, ils vont croître beaucoup plus facilement et s'apaiser. Mais pour tous les humains, c'est la condition indispensable pour en arriver au meilleur de soi. C'est une loi universelle. Nous avons un besoin absolu d'être aimé tout à fait. Et pourquoi je dis que notre besoin est d'abord d'être aimé avant d'aimer? Bien, cela vient du fait que le Créateur nous a d'abord créés, non pas pour se faire aimer d'abord, mais pour pouvoir nous aimer. Il ne nous a pas créés par besoin d'amour pour lui. Il avait tout ce qu'il fallait. Il nous a créés d'abord pour pouvoir déverser son amour. Il voulait laisser déborder cet amour qui procurait ce qu'on appelle sa gloire intrinsèque, son bonheur à lui, le comblait. Il n'avait pas besoin de rien de plus. Mais cet amour étant trop fort, il voulait le projeter, le déverser et le partager avec d'autres bénéficiaires. Donc, nous avons été créés pour être d'abord et avant tout des récepteurs d'amour, avant d'être des émetteurs ou des transmetteurs. Notre être a porté la triple signature du Créateur qui, en définitive, disait « Je te crée, je te mets au monde parce que je t'aime. » La signature de Jésus qui, en définitive, a dit « Je t'ai sauvé, je t'ai racheté parce que je t'aime. » Et la signature de l'Esprit-Saint qui dit « Je suis ton compagnon de route, je t'accompagne, je veux te déclarer notre amour trinitaire. » C'est donc important de noter et de retenir cela. Notre faim et notre soif absolue d'être aimé par lui, c'est le plus profond des besoins de tout être humain. Et c'est la raison initiale de tout ce que nous sommes et devons être. Ce n'est que, en second lieu, quand on a connu la plénitude de cet amour qui vient vers nous, qu'à notre tour, comme Dieu, on ne peut pas le contenir et il faut qu'il se déverse et se partage avec les autres. Évidemment, face à ce grand besoin de notre être, d'être aimé, ce mal d'amour, cette quête d'amour, C'est ici que l'on se différencie les uns des autres assez rapidement. Les uns ignorant tout à fait ce point de départ, on ne leur a jamais dit qu'ils avaient été créés avant tout et surtout pour être aimés, alors ils procèdent dans leur vie sans même y penser. Il y en a d'autres qui le sentent, mais se dépêchent de l'annuler parce qu'ils ne voient pas la réponse à ce besoin d'amour. Il y en a d'autres qui se résignent parce qu'ils ont attendu dans leur vie cet amour absolu et ils ne l'ont pas reçu, alors ils se disent, bien, c'est beau en principe, mais c'est pas en pratique que j'aurai la réponse. Et alors, ils se résignent à ce que la vie soit une vallée de larmes. D'autres se lancent résolument à vouloir trouver la réponse dans l'amour de tout et de tous, et sont déçus à tout moment. Et il y a enfin ceux qui regroupent peut-être la majorité d'entre nous, qui compensent, soit à leur détriment, en allant chercher dans des bonheurs faux, dans des aventures dommageable et regrettable ce besoin d'être aimé. Mais il y a aussi cette légion d'entre nous qui croit bien faire et se lance dans le surménage et la suractivité, dans le travail, dans l'apostolat, dans les bonnes œuvres. Et je pense que beaucoup d'entre nous doivent et peuvent s'examiner sur ce point. Parce que nous cherchons à être aimés par toutes sortes de bonnes choses et non par quelqu'un. À ce point de vue-là, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui peuvent nous donner une sérieuse leçon. Ils sont beaucoup plus précoces que nous dans cette recherche de l'amour absolu. Ils ne tardent pas dans leur vie à vouloir trouver où elle est cette réponse à cette faim, cette soif d'être aimé. Alors, il leur arrive, peut-être, de chercher sur des fausses routes, de faire des détours inutiles, de se croire aimé ici ou là, par ceci ou par cela, en vain. Mais ils ont au cœur le désir de ne pas laisser mourir cette faim et soif d'être aimé. Ils ne se contentent pas de la demi-mesure ou du succès d'année, des moyens secondaires. Ils sont même prêts à troquer l'amour des richesses matérielles, intellectuelles, professionnelles, sociales. Troquer l'amour des richesses pour la richesse de l'amour. Mes chers amis, à cette faim et soif d'amour absolu, il n'y a qu'une réponse. Une seule. Elle a été prévue de toute éternité et elle est à la disposition de chacun et de chacune d'entre nous. L'amour vrai, complet, stable, prévenant, comblant, croissant, infini et source de tout, qui vient répondre à notre besoin et notre désir d'être aimé dès ici-bas de façon absolue, existe. Et la réponse est dans l'accueil total et le laisser agir et dire de l'amour trinitaire en chacun d'entre nous. Dieu, se déversant en nous, nous rend même de plus en plus aptes à l'accueillir davantage, à le laisser nous perfectionner et à nous combler tous les jours de plus en plus. Mes chers amis, et je termine cette première affirmation, on n'a vraiment pas commencé à vivre comme il faut, et pour vrai et pour de bon, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris et acquis expérimentalement, concrètement, dans notre vie, à capter et à sentir à fond l'amour de Dieu pour soi. Et je ne dis pas avoir appris à aimer Dieu et les autres, d'abord, mais j'insiste, appris à se laisser aimer par Dieu et le sentir, le goûter, le voir, le toucher, l'entendre, qui m'aime éperdument, du matin au soir, dans toute ma vie. Et cela, mes chers amis, est offert à chacun d'entre nous, sans aucune exception, et ce n'est pas une grâce privilégié, exceptionnel, qu'on doit mériter. Cela nous a été offert par notre Créateur, Sauveur et Sanctificateur. On le sait bien, mes chers amis, que si par hypothèse j'excluais la lettre A de mon alphabet, je n'irai pas bien loin dans mes Écritures. Il me serait impossible de mettre par écrit ma vie si je n'utilisais jamais la lettre A. On sait fort bien que si j'excluais de ma comptabilité le chiffre 1, même si je comptais jusqu'à des milliards de milliards, n'utilisant jamais le chiffre 1, tous les calculs de ma vie seraient faussés. Eh bien, l'alpha, la lettre A de toute vie, c'est de se laisser aimer par la Trinité. Il l'a dit d'ailleurs, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, la première lettre de toute vie. Ce par quoi je dois commencer, c'est me laisser aimer par cette Trinité sainte. On pourrait dire en boutade que si je ne commence pas par la première lettre qui est alpha, je commence par la deuxième qui est bêta. Et puisque nous parlons de Dieu Sauveur, je puis à ce moment-ci affirmer sans l'ombre d'un doute que ce qui compromet le salut dans une âme ou dans l'ensemble des âmes revient toujours à ce point. C'est parce que quelqu'un a connu un sevrage d'amour divin, non transmis par les parents, les amis, les conjoints, connaît des blessures d'amour, des illusions d'amour, des détournements d'amour, des confusions d'amour, que sais-je encore, que l'être humain est obligé de chercher ailleurs et autrement